La classe de création sonore, épisode 2. Elfège a suivi la session 2020 de la classe de création sonore proposée dans le village de Montjustin pendant un an, animée par Chloé Sanchez et Célio Paillard. Voir l'épisode 0 de la classe de son pour plus de détails. Elle présente une création sonore qui a vu le jour lors de cette formation, intitulée « Consistance ». Retrouvez l'ensemble de ces épisodes avec différentes participantes sur notre site internet et l'ensemble des sons dans leur intégralité sur SoundCloud, la classe de son. Quand vous êtes inscrit à la classe son, qu'est-ce que vous veniez chercher ?
Je venais chercher une formation plus précise sur le son, le domaine du son, parce que moi je suis plus issue du domaine vidéo. Et je trouvais que c'était un peu le son était un peu le parent pauvre de ce domaine-là. Et j'avais envie de me focaliser plus sur ses compétences et explorer plus la place du son. Et petit à petit, j'y ai pris plaisir à juste explorer le son et pas le son pour la vidéo.
Est-ce que vous avez trouvé ce que vous veniez chercher ?
Oui, plus et affinité. Parce que on a eu des temps aussi de découverte des outils, des micros, du montage. Moi, je venais aussi pour tenter d'apprendre des choses autour de l'électroacoustique. Mais par facilité, je me suis concentrée sur un domaine que je connaissais plus, le documentaire. Dans un second temps, j'aimerais aller vers plus de la création sonore et m'amuser à perturber les sons. Puis c'était un cadre hyper riche aussi d'échanges avec des formateurs hyper généreux de leur savoir et dans leur approche de la pédagogie. Et entre les différentes personnes qui venaient participer à la classe de son, il y avait plein de profils différents et plein de sensibilités, plein de parcours. Donc c'était, oui, plus.
Ça donne envie d'y aller en tout cas. Et par rapport à la création sonore, justement, est-ce que désormais vous percevez le son d'une manière différente ?
J'avais déjà un parcours d'écoute avant et je crois qu'il s'est encore plus renforcé. Et oui, les oreilles, les écoutilles s'ouvrent encore plus et sont plus, encore plus gourmandes.
Est-ce que vous pouvez nous présenter le son que nous allons écouter ?
Alors, il s'appelle « Consistance de lien ». J'ai décidé de l'appeler comme ça parce que je voulais retrouver une matérialité d'une notion un peu pas très matérielle, justement, le lien qui s'invente et qui se construit, mais qui n'est pas matériel. Et d'interroger la consistance, ça me permettait de penser à comment on investit ces espaces de la relation, notamment celle des pères non-géniteurs, donc de la place de papa, qui sont rentrés dans le rapport à la parentalité à travers le rapport avec un enfant dont ils n'étaient pas le géniteur. Parce que moi, c'est un peu mon histoire. J'ai eu un papa pendant plusieurs années au début de ma vie qui n'était pas mon géniteur, mais qui m'a reconnue et qui est sorti de ma vie quand il s'est séparé avec ma mère. Mais voilà, et du coup, pendant toute ma vie, pas de manière douloureuse, mais à chaque fois que je vois un peu des bouts d'histoire qui ne sont pas totalement formatés, classiques, on va dire, d'un papa, une maman, dans un rapport hétéro, et tout ça, je pose des questions. Et puis, je m'informe, et puis je compare aussi un peu les parcours de vie. Et là, c'était une occasion de parler de moi, de mon parcours de vie, d'un bout de mon parcours là-dessus, mais de le comparer à des histoires que j'avais croisées ici de copains. Et je l'ai pris sous l'angle des gars, des papas. Et on m'a posé aussi la question de pourquoi pas les mamans. Mais c'était aussi pour moi une espèce de réparation, de suture, de pansement. Enfin, moi, dans mon cas, le papa, c'est quelqu'un avec qui j'ai plus de lien et j'ai plus de lien, en l'occurrence, c'est ça. Mais j'avais envie de questionner des parcours et de visibiliser des parcours de papa qui, eux, ont créé, entretenu, pour qui il persiste un lien fort et qu'ils ont participé à construire, eux, de leur place à eux.
Et là, dans ce son que nous avons écouté, vous avez fait le choix d'un sujet intime où il y a une grande place pour la parole et pour le coup moins pour la création sonore.
Oui, pas du tout pour la création sonore. Ce que je disais, j'étais plus dans l'aspect documentaire, donc j'avais quand même effectivement beaucoup de besoins de place pour la parole et que j'ai déjà dû faire beaucoup de choix dans les entretiens que j'ai faits pour resserrer le spectre de ce qui se racontait. Ça fait déjà 29 minutes. Si j'avais laissé plus de place à la création sonore, ça aurait fait un truc plus long. Ou en tout cas, j'avais pas l'espace pour ça. Et puis, j'avais pas suffisamment exploré techniquement ce que je pouvais faire. Mais effectivement, j'aimerais plus aller là-dedans.
Là, nous allons écouter le son. Et s'il y a des personnes qui veulent l'écouter en entier, puisqu'il faut dire que ça donne envie, puisque c'est coupé au milieu d'un témoignage, où est-ce qu'on peut trouver ce son?
On peut le trouver sur le SoundCloud de la classe de son. Donc, on peut taper, on ouvre SoundCloud, le site qui répertorie pas mal de sons. Et on tape classe de son Mont Justin ou tout simplement mon nom et prénom, Berthelot, B-E-R-T-H-E-L-O-T, Elfège, E-L-P-H-E-G-E, consistance de lien.
Merci Elfège.
Merci à vous.
Bien, alors, j'ai deux petites filles devant moi et je vais leur poser des questions. La plus grande s'appelle Elfège, elle a 8 ans. Et la plus petite s'appelle Héloïse et elle a... Quel âge tu as ?
4 ans.
En mars 1983, ma mère accouche d'un bébé issu d'un des rapports non protégés avec son compagnon de l'époque. J'atterris, un cordon ombilical autour du cou, bien déterminé à découvrir ce qu'il se trame au dehors. Depuis lors, ma mère a toujours été un pilier solide et doux qui a patiemment partagé ses outils pour traverser la vie. Elle avait 18 ans au moment de la conception, mon géniteur idem. À partir du matin où elle annonce à ce dernier qu'un embryon est logé dans son ventre, hop, disparition. Je n'étais pas prévue. Ni programmée, mais assez désirée par ma mère à ce moment-là pour rester et grandir. À l'âge de 3 ans, rencontre de l'homme avec lequel ma mère se mariera au bout d'un an et qui fera à cette occasion la démarche officielle de me reconnaître. Jusque-là, pas de papa. 7 ans plus tard, et après de multiples ruptures et rabibochages, le divorce se dessine. L'homme qui était devenu mon papa se défait du lien et de la place qu'il avait choisi et construit auprès de cette petite fille rattachée. La petite sœur que j'avais gagnée au passage est scindée entre leurs deux maisons. Quant à moi, je me retrouve sur un siège éjectable que je n'avais pas choisi d'occuper et ne vis que chez ma mère. L'engagement que j'aurais pu croire indéfectible de la part de ce père avait manqué de corps. Et de consistance. Chacun, chacune, fait ce qu'il ou elle peut, avec ce qu'il ou elle est. Ça fluctue toute la vie. Maintenant, je le sais. Seulement, quand tu trinques parce que dans l'histoire, tu es l'enfant, et parfois la dernière roue du carrosse dans les trajectoires de l'adulte, c'est pas toujours sans dommage. Maintenant adulte et mère d'un petit garçon, je tente de panser les plaies en me questionnant et en observant d'autres parcours. J'espère qu'à mon tour, je ne ferai pas trop de dégâts.
Papa, enfin, mais...
Oh ah, papa.
Je m'appelle Julian. Et j'ai 33 ans. J'ai 2 enfants avec ma compagne. En fait, quand je raconte ma situation, je dis, je suis responsable des deux. En fait, de un, je suis responsable, pas coupable. Et de l'autre, je suis responsable, coupable. Voilà. Et le petit, je suis le père et biologique, et puis le père. Et puis la grande, je suis que le papa. Mais pas le papa biologique, si tu veux.